Le sujet des soirées lecture, c'est l'écrivain à l'écoute de l'écoute, Henri Franck. Alors, c'est vrai qu'il a beaucoup écouté Henri Franck. Pas seulement des contes, des chansons, des berceuses, des comptines, des devinettes, des proverbes, des dictons, des formulettes. Il y a un beau livre paru chez Maisonneuve et La Rose dans une édition de Bernadette Bricot qui s'appelle « Contes et récits, les livres à doigts ». Et ce beau livre donne une idée de sa collecte poursuivie pendant près d'un demi-siècle sans magnétophone et qui inclut aussi des compositions françaises envoyées par des instituteurs. Dans cette collecte, tout comme celui des contes, le répertoire des chansons est d'une grande diversité. Complainte de Marinière, Franck Smith par Jeanne Lebeau, La Vendière à Ambert, qu'Henri Pourrat rencontre en 1912. Chansons facétieuses, inspirées de l'histoire locale, par Étienne Vialat, cordonnier qui chante en ressemelant les souliers. Pastourelle, chant de soldats, complainte criminelle, par Mariette et Georges, bergère et cultivatrice. Alexandre Vialat, qui a bien connu Pourrat, écrit qu'il s'inspirait surtout du vieux Titan. Il se l'appliquait sur l'oreille et l'écoutait comme une espèce de coquillage. Ce n'est pas la rumeur de la mer que ce coquillage-là fait entendre, mais le bruissement innombrable de ce que Pourrat appelle la grande imagination populaire. L'auteur de Gaspard des Montagnes, qui avait beaucoup lu et qui était l'ami de grands écrivains comme Jean Paulhan, Marcel Arlan, Francis James, Rameau et beaucoup d'autres, étaient passionnés de culture populaire au point qu'il se serait volontiers défini lui-même comme un Pourrat avec un P minuscule et sans T à la fin. Il explique lui-même ce que c'est qu'un Pourrat. Pourquoi n'oserais-je pas demander à être regardé moi-même comme un conteur populaire? C'est probablement ce que signifie mon nom. Dans le Forez, le Pourrat, c'est le pauvre. Un homme qui est pauvre, non par occasion, mais vocation. Celui qui va dans les campagnes, colportant les nouvelles, comptant les contes, chantant les chansons. Une sorte de trouvère à l'usage des fermes et non des châteaux. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on lit la préface au conte de la bûcheronne, on mesure l'infinie patience du chasseur de folklore. Rien de moins immédiat que de savoir se faire ouvrir, comme l'écrit Pourrat, par une de ses bergères en jupe à fronces, sa bibliothèque. Celle des pauvres, qu'elles ont hérité de leur mère grand, et lègueront à leur petite fille. Ce n'est qu'au terme d'un long processus d'apprivoisement qui commence par le chien de la bergère qu'enfin le conte se donne à entendre. Collecteur, Pourrat a aussi été transcripteur de contes. Quoiqu'il ait été familier de la méthode d'Arnold van Genève, le grand ethnographe, il ne lui suffisait pas de voir dans le conte un objet de connaissance scientifique, mais l'expression vivante d'une culture populaire à sauvegarder, ce que ne permettait pas pour lui la reproduction mot à mot des récits des conteurs. La transcription est un épineux problème pour l'écrivain conteur. Impossible de ne pas toucher à ses contes écrits, donnés tels quels, sans sel ni sauge, Il reste curiosité de spécialiste, mais impossible d'y toucher. Ils ne sont pas tiens, ce sont les classiques de la paysannerie. La crainte que le passage à l'écrit ne dénature la force vive du récit oral a aussi préoccupé les frères Grimm. Le poète Arnim leur écrit. Vous ne me ferez jamais croire, même si vous le croyez vous-même, que les contes aient été notés par vous exactement comme vous les avez entendus. Le besoin de former, de continuer à créer, l'emporte dans l'homme sur toutes les intentions préconçues. Et c'est, somme toute, un besoin ineffaçable. Le fil n'est jamais rompu, mais nécessairement, on voit toujours apparaître une nouvelle sorte de l'art. Alors, Jacob Grimm lui répond par une image. Tu ne peux jamais raconter avec une fidélité parfaite, pas plus que tu ne peux casser un œuf sans qu'il reste du blanc d'œuf collé à la coquille. Cela est la conséquence de toute chose humaine. Il s'agit ici de la façon de faire qui n'est jamais la même. La fidélité véritable consisterait, pour continuer mon image, à ne pas briser le jaune de l'œuf. Pourrin aurait peut-être acquiescé à cette image de Jacob Grimm et à cette conception de la fidélité. En tout cas, il pensait qu'une fois sortis des chemins de l'oralité, les contes ont besoin que l'écriture les accompagne avec beaucoup de patience et d'exigence pour recréer la saveur du bouche à oreille. En fait, Henri Courat ne s'était pas d'abord destiné à l'écriture, mais aux eaux et forêts. Admis à l'agro en 1905, il tomba gravement malade, la tuberculose. Un an, il reste alité entre la vie et la mort, condamné à vivre à la campagne, contraint au silence. On conçoit qu'une maladie qui impose le silence puisse aiguiser la faculté d'écoute, affecter la voix jusque dans l'œuvre écrite, comme le suggère la fille de l'écrivain, Annette Laura. Je dirais presque, observe-t-elle, que parler à mi-voix est devenu, dans sa vie, comme dans son œuvre, son ton, sa manière. Parler, écrire à mi-voix, d'un ton qui laisse entrebâiller la porte du mystère. Au cours de sa collecte, devenue systématique à partir de 1911, Courat a longuement prêté l'oreille à des informateurs, des informatrices qui avaient chacun leur répertoire. Certaines de ces informatrices, il les a rencontrées dans le monde des dentelières, ce petit royaume des fuseaux, des carreaux ou des carafes emplis d'eau de pluie font cercle autour de la lampe à huile. Le chalet était particulièrement favorable à la transmission des récits. Au nombre de ces dentelières, Marie-Claude, la grande conteuse de Valère, a 78 ans lorsque Courat la rencontre en 1912. C'est de cette femme un peu visionnaire, comme il l'a décrit, que viennent des contes merveilleux, tels Pirlette volée par la fée, le soldat Laramée et la fille qui gâtait une paire de souliers toutes les nuits. Autant de contes, commente Bernadette Bricot, qui nous font entrer de plein pied dans le royaume de l'imaginaire. Celui-ci est la chose des fées, des femmes et des petits-enfants, errants et buissonniers, fondamentalement ligués avec toutes les forces du monde contre les hommes sédentaires. Une autre dentelière, Nanette Chapa, donne à Henri Poura trois contes religieux, dont Barthélemy, le sabotier du diable, qu'on retrouve dans Gaspard des Montagnes. Mais c'est Marie Viserias, 38 ans, domestique habitant à Champétière, qui transmettra un long conte romanesque, un conte de la peur et de la nuit, appelé à intervenir de manière décisive dans l'élaboration de Gaspard des Montagnes, l'histoire du maître des 40 voleurs et de sa pauvre femme. Les histoires transmises par Madame B. Louise Bouvard, une femme des domaines, sont des contes noirs, sous le signe du diable et des sorciers, des sorts jetés sur les bêtes, possédés, exorcismes, mauvais livres, au pouvoir redoutable. La figure d'Alphonsine Capzone, une couturière, est tout à fait singulière. Alphonsine est sourde depuis l'âge de 30 ans, et c'est elle qui donnera de grands contes comme Les trois cheveux d'or du diable, Le conte de la branche qui chante, De l'oiseau de vérité et De l'eau qui fait devenir jeune. Quant à Jacques Pourréron, le tailleur minutrier, on lui doit de nombreux contes facétieux, dont Le bûcheron et Le colporteur. Il faudrait citer beaucoup d'autres informateurs occasionnels. Tous ces contes longuement écoutés, patiemment collectés, puis transcrits plus tard, vous trouvez comme un second souffle dans Gaspard des Montagnes et dans Le trésor des contes, deux expressions de cette alliance entre la tradition orale et le travail de l'écrivain. Alors, Gaspard des Montagnes. Jeune lecteur, Poura avait aimé les romans d'aventure. Le dernier du Mohican, La prairie de Fenimore Cooper, L'île au trésor de Stevenson. Pour lui, ce sont des livres qui, d'une seule phrase, font surgir tout un monde. Il suffit d'une phrase, écrit-il. Hisse les perroquets et les cacatois, double les phoques, et on est sur la dunette, au soleil levant, devant l'île. Quelle chaleur, quel bleu de la mer! On va écraser les pirates, on va retrouver le trésor, et tout ira bien à la fin. Ce qui allait devenir Gaspard des Montagnes, écrit entre 1918 et 1948, pour sa version définitive, a d'abord été dans le projet de son auteur, selon ses propres termes, une sorte de roman cinéma. Oui, disait-il, avec des déguisements, des enlèvements, des souterrains, des embuscades, des meurtres. Le roman cinéma se voulait aussi une fresque de la vie rurale, une restitution de tout un mode de vie ancestral, celui des domaines, des paysans, écrit-il, et des gens de métier, alors qu'on chantait, dansait à tout bout de champ, et qu'il y avait plus d'amitié dans l'œuvre. Le conte était appelé à tenir une place essentielle. Déjà, le prologue en vers met en scène une conteuse. La vieille Marie comptait et comptait, assise d'eau au creux de sa fenêtre. Il pleuvait sur Gombe, et l'oiseau du hêtre ensa du verger plein d'ombre chantée. Les crimes des bois et ceux des domaines, toutes les peurs et tous les secrets, ceux des pierres fées et ceux des fontaines, les farces du bal et des cabarets. On s'attend à être emporté dans le flux d'une parole débordante, à écouter des histoires de sang, d'épouvante. Épouvante d'où écrit Poura. Celle du crime, cette horreur dans les ténèbres, les pas qu'on entend autour de la maison, sans secours, la porte, on entend les bois qui sautent, l'homme coûte là au point qui se précipite, et puis l'épouvante plus obscure de l'appareil social, les gendarmes, la prison, les juges en robe rouge, le bourreau et la dernière messe, la guillotine. Ou seulement, le lecteur sera l'auditeur fictif d'une conteuse, mais le roman tout entier est construit à partir d'un conte populaire, un conte à la trame extensible, comme l'écrit Paul Virois, capable d'absorber bien d'autres récits, tout en constituant une histoire plausible aux péripéties inattendues. Ce conte, intitulé « La main coupée » ou « Les yeux blancs » ou encore « Le maître des 40 voleurs » est largement diffusé en dehors de l'Auvergne, en Dauphiné, Normandie, Savoie, Languedoc, Bretagne et jusqu'en Pologne. Il relate l'histoire d'une jeune fille laissée avec une compagne dans une ferme isolée pendant l'absence de ses parents et d'un domestique. L'ami s'enfuit brusquement après avoir aperçu deux yeux blancs sous le lit. La jeune héroïne passe une nuit affreuse au cours de laquelle elle voit sa demeure fouillée par un brigand, mais profitant d'une sortie momentanée de l'homme, dans un sursaut d'énergie, elle ferme la porte derrière lui et, quand celui-ci s'efforce de reprendre son coutelas sous la porte, elle lui tranche trois doigts. L'homme crie de douleur et lance une terrible menace de vengeance qui s'accomplira avec le temps et de façon inattendue. Il épousera la jeune fille et fera le malheur de sa vie. Dans un texte intitulé « Pays des histoires », l'écrivain a clairement expliqué pourquoi il avait choisi de fonder son roman sur cette histoire-là. Le conte de la main coupée ou des yeux blancs. Cette histoire de la petite mutilant le brigand caché, puis l'épousant sans le savoir et devenant sa longue victime, m'a paru le plus propre à opérer le rassemblement de tous ces vieux contes. C'est un de ceux qui ont le plus de marques, qui ont le plus de ferveur et d'audience, sans doute parce qu'ils touchaient de plus près les gens, autant des domaines, comme une histoire qui pourrait demain, presque pareil, tomber sur eux. Puis il était plus dramatique que les autres, surtout plus tragique, donnant plus à songer sur la destinée humaine. Il a tant couru celui-là qu'on le retrouve partout, de sorte qu'il est chargé de tous les souvenirs des bois et des chemins, des auberges et des domaines. Ce récit tragique qui fait éprouver terreur et pitié peut même se changer en une sorte de parabole. Le domaine, à la merci de l'homme noir, devenant l'image de l'extrême fragilité de tout ce que construisent les hommes. Dans la porte du verger, Pourra note encore. Pendant des âges, toute une paysannerie de manouvriers, de tâcherons, de petits possédants avait rêvé du domaine comme du paradis. Le brigand là-dedans, monsieur apparaissant tout à coup pour y apporter le malheur, malgré le chien sous la table et le fusil au manteau de la cheminée, faisait figure de Satan lui-même. Ce qui est certain, c'est que dans la genèse de Gaspard des Montagnes, ce conte a joué un rôle incitatif, dynamisant. Il a littéralement mis en marche l'imagination du romancier, ainsi qu'il le reconnaît lui-même. Il y a surtout un conte, la main coupée, les yeux blancs, les 40 voleurs, derrière lequel je suis partie un jour, en essayant de lier les autres à son long fil, d'en faire une longue histoire sans histoire. Dans Gaspard des Montagnes, la petite, mutilant le brigand caché, se nomme Anne-Marie Grand. Le premier lieu du drame, c'est la maison de Chêneral, au fond des bois. La maison où sept voix. Le seul nom de Chêneral fait surgir les bois des vieilles peuples.
Elles n'ont rien de trop gai, les forêts qui s'en vont sur ces plateaux du côté de la chaise Dieu. Des sapins, des sapins, des sapins. Jamais une arme. Les chemins sablonneux s'enfoncent de salle obscure en salle obscure parmi la mousse et la fougère sous ces grandes rames balançantes. Les grappes du sureau rouge tirent l'œil via quelques pieds digitales pourprés. Il y a des endroits où le soleil semble n'avoir point percé depuis des mondes d'années. C'est sombre, c'est noir, c'est la mort. Une forêt comme celle de la complaine de Sainte-Geneviève-de-Brabant où des ermites peuvent vivre solitaires et qu'on imagine pleine de loups, de renards, de blaireaux. À 10 pas, sait-on ce qui se cache derrière ces fugères, c'est des arbres où la résine met des traînées de suif. Tout remue, mais remue à peine. Tout est silence, mais un silence traversé de 20 bruits menus. Une belette qui se sauve, un souffle de vent dans la feuille des houx, une fontaine qui s'égoutte derrière la roche. Et lorsque le sentier monte en tournant sous le couvert à travers les masses de pierres détachées dans le désordre des sapins penchés sur leurs nœuds des racines, on croirait aller vers des cavernes de faux monnayeurs et de brigands. Pas une âme, et pourtant, il semble que quelqu'un soit tapi par là, en embuscade. Il faut avoir l'esprit bien fort pour ne pas se laisser gagner par la peur.
Là, on entend bien ici à quel point la voix du romancier poète se coule dans la voix prêtée à la conteuse. Les figures de l'oralité sont bien présentes. Les sapins, les sapins, les sapins, la répétition, l'expression, les mondes d'années pourraient venir aux lèvres de la vieille Marie. Mais à travers les formes de la langue parlée, qui pourrait être celle de la conteuse populaire, le poète met en valeur les mots qui parlent à l'imagination. Il amplifie le rythme de la phrase, il fait appel à une référence légendaire, Geneviève de Brabant. Le souffle du conte dont nous sommes les auditeurs fictifs et la force d'évocation du roman-poème se confondent alors pour nous communiquer le frisson de la peur. La vivacité savoureuse du parler populaire peut fort bien coexister avec de vrais moments de poésie, telles ces lignes qui font déjà se lever autour de la maison de Chémeral, l'ombre du drame. Le coin demeurait passablement désert, un chaluant violet, et le bus criait, et toujours, comme le bruit au cœur des bois d'un torrent dévalant, le vent sifflait, là-bas, sous le ciel de frimas, pour la branche noire. Avec une grande économie de moyens, avec ce chaluant, cette buse, ce vent sifflant, ces sapins noirs, se crée une atmosphère qui ne présage rien de bon. Le lecteur peut s'attendre au pire, annoncer l'alinéa suivant. Ce fut dans cette maison des 7 portes qu'Adva n'eut pas l'aventure terrible de s'ensuivir tant de malheurs. Dans Contes et récits du livre à doigts, l'intitulé Les voix hantées de Chémeral regroupe un ensemble de récits de peur. Bernadette Bricout signale l'extraordinaire foisonnement des apparitions fantastiques dans la tradition livre à doigts. Cercueil, travers de la rose, flamaçon, lutin revenant, chasse royale dans le ciel, ombre sous le couvert, loup-garou. Si l'on ajoute à ce cortège les brigands, les bossus, les bègues, ceux qui ont le pied claudiquant, celles qui ont le mauvais œil, les chats noirs et les chaluants, les vrais loups et les faux mendiants, on concevra que le pays d'Ambert ait pu connaître, dans son austère solitude, la citature de la conclue. Lui évoque les vieilles visions démentes, mais peu disposées à se défaire, qui courent sous le couvert des sapins, dans les endroits peureux de la montagne. Dès les premières veillées de Gaspard des Montagnes, ce cycle de récits vient naturellement se greffer sur le compte de la main coupée. Dans la voix de la conteuse résonnent alors les sombres histoires de ceux qui, ayant passé par ces voies la nuit, ont été bouleversés par des phénomènes d'apparence surnaturelle. La vieille servante des granges, qui mourra littéralement de peur après avoir vu, dans le brouillard, la forme humaine qui lui tendait la main se changer en un poulain rouge qui partit au galop sous les arbres, les bûcherons, les moines de la chasse sauvage et tant d'autres. Il arrivait encore, dit-il écrit, qu'un coin de futaie fut illuminé par une lueur diabolique. On apercevait des feux tels que les langues de flammes dépassaient la pointe des sapins. Pour aller au foire de la Chaise-Dieu, il faut traverser ces bois solitaires. Et c'était les soirs au retour qu'on voyait les fantasmes. Mais l'apparence surnaturelle peut aussi déguiser un malfaiteur bien réel. C'est ce qui arrive avec la galipote, dont il est question un peu plus loin dans le roman. Bernadette Bricout la commente ainsi. De tous les êtres de l'homme, de toutes les créatures fantastiques et hors d'imagination populaire, la bête noire est sans doute dans le pays d'Ambert la plus terrible. Un écolier de Champétière, 11 ans, l'a décrit comme une sorte de loup noir avec de grands yeux qui regardaient toujours dans le vide. Et cette bête frappait au temple et montrait ses dents et ses griffes par les vénères. Cette figure de la peur s'est nourrie des rumeurs, des contes noirs éveillés, des chuchotements des enfants et des colères impunes. Le glossaire de Régis Michalias indique du reste que le terme de galipote désigne à la fois la bête noire et son double, l'usurpateur humain qui en prend l'apparence. Galipote, être fantastique dont on menace les enfants, personne masquée, femme d'une nuit sordide, de sorte que la galipote peut abriter un monstre ou un épouvantail, pour s'y reconnaître, rien n'est plus juste. Dans Gaspard des Montagnes, sous la peau coriace de la galipote se cache Lucine, un personnage inquiétant dont on dit qu'enfant, il a été vendu au diable par son père, alors qu'il agonise. Il faut lui mettre un joug de bœuf sur la tête pour qu'il puisse trépasser. Mort, il ne connaîtra pas le repos et mène une sarabande infernale dans son ancienne maison. Sa veuve, la Bide, fait appel à l'ensuéreuse. Les ensuéreuses précises, romanciers conteurs, n'avaient point peur de mort. Elles étaient celles qui les cousaient dans leur linceul. Elles entendaient des bruits qu'elles comprenaient. En les veillant, elle savait dire s'il voulait des messes. Mais celle-là refusa tout net de coucher dans la maison du Seigneur. Rien ne vient à bout de la diablerie du Seigneur, pas même la sardinelle, une vieille fille qui n'a pas froid aux yeux, une grande chabrave, dit le romancier, auteur, qui chargeait un sac de blé sur son dos et qui eut bu bouteille de tafia. Plus lestement que vous, Chopine de quitter. La seule solution pour la digue est de quitter les lieux. Le monde nocturne, dans Gaspard des Montagnes, est un foisonnement inépuisable. Et le romancier s'interroge. Tant de faits étranges, qui dira tout ce qu'il y a au fond de la nuit, quelle présence dans le noir. Par le milieu du vent. Toutes ces présences cachées, fuyantes, impossibles à dénombrer et à dire, qui ne peuvent être évoquées qu'à mi-voix, communiquent leur frémissement à la lecture. Anne-Marie Grange est particulièrement sensible à cette emprise de l'amour. Au début du roman, on suit, dans une tension croissante, la progression fatidique de sa solitude. Non seulement ses parents s'absentent pour plusieurs jours, mais elle est peu à peu privée de toute compagnie rassurante. La vieille servante est morte, La jeune partie, le valet, surnommé le Nan, est contraint par la fausse annonce d'un décès de retourner dans sa famille. Même la chienne est empoisonnée. L'ami qui aurait dû rester avec elle prend la fuite après avoir vu deux yeux blancs sous le lit. On se souvient que la maison de Shenrai a 7 portes. Or, au moment de les fermer, Anne-Marie en a oublié une. C'est dans ses comptages, à la perfection magique du chiffre 7, que le malheur va s'engouffrer. Ainsi qu'il nous est annoncé, la porte de l'écurie d'or resta ouverte et l'histoire d'Anne-Marie Grange commença. Le romancier s'est fait attendre son lecteur et, à la 5e pause de la première veillée, nous est enfin relaté la terrible d'Anne-Marie Grange.
La nuit tombait. Le vent s'élevait dans les sapins. Ce bruit, ces ombres, cet abandon qui serrait le cœur, tout cela ne faisait pas trop bien entre chien et loup. La petite pensait qu'elle était seule, séparée de ses pères et mères, sans secours d'aucune sorte, car décidément la chienne ne rentrait pas au logis. Et les bruits qui couraient lui revenaient dans la tête. Une peur la liait en tous ses mouvements. Elle avait essayé de manger, les bouchées ne passaient pas. Alors, laissant là le souper sur un coin de table, sans faire sa prière à genoux, sans réunir les braises et les couvrir de cendres comme la ménagère a coutume pour trouver à l'aube un reste de feu, elle s'est couchée dans le lit-coffre. Mais couchée, elle n'a pu ni prier, ni dormir. Le frisson de la petite mort la tenait éveillée. Les imaginations effrayantes se suivaient comme en un cauchemar. Elle n'osait pas seulement se tourner entre ses toiles, bien que rien ne bougeât dans la maison. La chandelle était éteinte, ça aurait été trop de dépenses. Et son odeur de suif traînait encore. Mais pour éviter de se trouver dans le noir, Anne-Marie avait remis du bois à la cheminée. Le bois, ça ne coûtait rien. Le lit gîtait dans un placard de planches, comme ça se pratiquait en montagne. D'entre ses rideaux rouges, la petite voyait les lueurs du feu agiter de grandes ombres, celles des deux escabelles au coin du foyer, celles de la table, celles des bancs massifs. Ses ombres s'allongeaient et se perdaient dans la salle où quelques flammes par les luisants qu'elle y mettait montraient les cruches vernissées, l'armoire et son rouet dessus. Là-bas, la porte du cabinet où le père serrait ses papiers s'ouvrait comme un trou. Parfois, au-dessous, dans les tables, une vache faisait tinter sa chaîne. Puis, plus rien que l'horloge qui battait lentement, lentement, à croire que cette nuit ne prendrait jamais fin. Il pouvait être 11 heures lorsqu'Anne-Marie entendit quelqu'un sortir en rampant de sous le lit de l'endroit là où l'on met les sabots. Crier serait bien servi en un lieu si écarté. Quand elle l'aurait voulu d'ailleurs, elle ne l'aurait pu, tant la peur lui serrait la gorge. À peine si elle vit se dresser un homme qui lui parut énorme et tout noir, elle ferma les yeux, faisant celle qui dort. L'homme alla à la cheminée allumer la chandelle. Il revint au lit, écarta d'un bras le rideau et se pencha sur Anne-Marie. Peut-être fut-il sa dupe et la crut-il endormie. Plutôt, il la devina terrifiée. Mais, de peur qu'elle ne regardât entre les cils et ne le reconnût quelques jours, lui et ceux qui allaient venir, il fit tomber quelques gouttes de suif sur ses yeux pour les lui couler, c'est-à-dire pour lui clore les paupières. Toujours est-il qu'ainsi s'est raconté l'histoire. La chose faite, il se met en devoir de fureter partout, et comme à la volée. Puis, il passe dans le cabinet en portant la lumière. Marie l'entendit qui forçait un secrétaire, jetait bas les tiroirs, remet les papiers. Il lui fut bien un gros quart d'heure à examiner les paperasses une à une. Il revint, fit 2 tours parmi la salle, s'arrêtant souvent, même s'il donnait des coups contre le mur, fondait les cloisons. Enfin, il ouvrit une fenêtre et d'un petit sifflet d'argent, il siffla dans la nuit. Un moment passe, voyant arriver personne, il descend. Et va sur la porte de l'écurie pour appeler et guider tout son monde. Alors, je ne sais ce qui vient sur Anne-Marie, son bon ange peut-être, qui lui donne assistance. La voilà qui reprend cœur. En coiffe de nuit et sans bas, elle se lève, suit l'homme par derrière. Et comme elle le voit hors de l'écurie, elle se jette sur cette maudite porte, la pousse, met la barre, le tout en l'espace d'un clin d'œil. L'autre, au bruit, fait volte-face pour se voir, selon le mot ici, fermé dehors. Oh la garce! Il fonce sur la porte, il la secoue, mais elle était en cœur de chêne, aussi solide que celle d'une prison. On entendait derrière prendre un gros souffle en mâchonnant des injures. « Voyez-vous cet endormi ? » fit-il d'une voix qu'il déguisait. « Bon, laisse-moi seulement reprendre mon couteau. Je sais où je l'ai laissé. Je jure ma foi de ne te faire aucun mal et de ressortir dans la minute. » Elle respirait à pleine poitrine derrière les vantaux. Un contentement l'enlevait. Elle aurait voulu sauter, crier et rire. Le couteau, en passant, elle l'avait pris. Emmanché d'une corne de cerf proprement travaillée, c'était un couteau de chasse d'Allemagne. Au flanc de la gaine s'en trouvait encore un plus petit et une fourchette à deux dents. Anne-Marie avait tiré le coutelas sous un rayon de lune. Elle considérait cette lame luisante, bleuie vers la garde et ornée d'entrelacs dorés. Il n'avait tenu à presque rien qu'elle n'eût le coupé de ce bel acier-là. « Eh bien, tenez, je l'ai là, voilà votre couteau !» Elle jette l'épaisse gaine sous la porte. Le brigand passe la main sous ce ventail, une main blanche, autant qu'on pouvait voir, avec deux bagues, main de monsieur qui tâtait dans la poussière les fêtus. Anne-Marie se saisit du coutelas et en décharge un coup qui tranche le petit doigt et à moitié les deux autres. Quand elle avait vu cette main qui tâtonnait comme cherchant son coup à elle, une pensée de vengeance était emparée de son cœur. Et elle avait suivi cette pensée, manquant ainsi à la loi de Dieu qui veut que nous pardonnions les offenses qui nous sont faites. Le brigand a poussé un tel cri qu'on a pu l'entendre de Dorange et que son monde qui arrivait enfin s'est précipité à son secours. Ils l'ont trouvé à demi-pâmé, le sang lui pissant des doigts comme une fontaine, et ils ont eu assez à faire lui donner remède. 5-6, il pouvait être. Il portait des sabots et parlait patois d'une grosse voix roulante de paysan. Mais un ou deux avaient un ton plus rauque, brûlé par le rogome, et leur accent n'était point de nos cantons. Il devait y avoir un monsieur. Il commandait en jurant, ses bottes craquaient. Marie se collait à la porte, non tant pour écouter que pour trembler moins fort. À la fin, elle comprit que l'homme était tombé en faiblesse et qu'ils allaient l'emporter, qu'ils repartaient tous comme ils étaient venus. Et à ce moment, il suffit une espèce de silence. L'homme en noir dut reprendre connaissance et se redresser, et la sentir là, si proche derrière cette porte seulement. Alors il ramassa ses forces et d'une façon à faire trembler. « Ton temps viendra !» hurla-t-il. « Je jure de te faire crier pitié pour quelques jours !» On peut penser qu'elle va faire la guerre l'œil cette nuit-là.
Alors, sur le conseil de Gaspard, le rallié contre le brigand, les Granges quittent Chêneraille pour Champétière, puis pour le domaine des Escures, un château cette fois, et qui a aussi cette porte. Le château des Escures avait cette porte, et de tous les côtés, il pouvait arriver des chevaux. Alors, l'obsession de la menace ne quitte pas Anne-Marie. D'ailleurs, le brigand qui a retrouvé sa trace se livre à un affût implacable, comme on le voit lors de ces deux réapparitions successives. La première aux Escures, par une nuit de lune, la deuxième dans la forêt, au chais de l'ermite, alors qu'elle s'est endormie un après-midi orageux. C'est lui qui va dire.
Une nuit du mois d'août, qu'elle était couchée et qu'elle ne pouvait dormir, elle écoutait deux crapauds chanter goutte à goutte au vieux mur sous les fougères. Cette nuit de grande lune, une lune sereine comme de l'argent poli, sa coulée luisante entrait de biais dans la chambre. Dehors, on voyait des cimes d'arbres et les bosses bleues des collines. Les crapauds soudainement cessèrent tous deux de flûter. Un caillou déroula du mur. Anne-Marie ne put se tenir de se lever. Elle s'approcha de la fenêtre en restant dans l'ombre. Collée au chambranle, elle regardait le portail, le gros tilleul, la terrasse. Plus bas, une tête se montra à la crête de la muraille. Puis l'homme se hissa sur les poignets et sauta à terre sans aucun bruit. Sous le sureau du bout de l'allée, il arrangea le mouchoir sombre qui entourait sa tête et cela fait, contre le tronc de l'arbre, ne bougea plus ni pied ni main. Il tournait seulement un peu le visage pour examiner le château, mais aussi curieusement que s'il désirait l'acheter. À coup sûr, il venait pour Anne-Marie et il savait où elle logeait, puisque c'était cette fenêtre qu'il semblait regarder toujours. Et alors arriva ce qui devait arriver. L'homme de la nuit écarta les feuilles, avança la tête, puis sans plus de bruit qu'un chat qui marche sur un plancher, il se coula de sapin en sapin. Il se coula jusqu'à son couteau de chasse qui traînait là, s'en saisit, le tira de sa gaine. À ce moment, il regarda la jeune fille. Elle dormait, la tête versée sur l'épaule, et des boucles tombaient contre sa joue à laquelle ce peu de vin des Canaries avait donné des couleurs. Une enfant. Rien qu'une enfant. Sous le fichu en pointe, sa poitrine se soulevait à peine. Au fond de ses grands bois, endormie contre ce rocher près d'un pied de digital, on l'eût prise à la voir pour une petite traîne des chansons. Les vieilles gens et ceux qui savent les secrets de ce monde auraient bien compris qu'elle avait trop de beauté pour que son sort fût jamais heureux. Elle dormait sans un mouvement, et la tête ainsi penchée offrait ce cou nu et pur comme si elle le tendait au couteau. Enfoncer la lame sous l'oreille entre la nuque et le menton, puis la coucher sur la roche dans le creux même du corps mort, les autres les trouveraient avec ce couteau dans le cou. Mais l'homme était là en pied, comme une statue. Il regardait Anne-Marie Grand. Et qui aurait pu la voir aussi dormante sans se tenir, sans se sentir le cœur ému d'amitié, de pitié? Si ça avait été de la compassion qui eût passé alors par le cœur de l'homme, et qu'il eût mieux valu qu'il tuât tout de suite la pauvre enfant. Il demeurait debout devant elle, sans se soucier de grange, ni de grange, ni des bûcherons, aussi roide que s'il venait d'être changé en pierre. Son œil ne quittait point Anne-Marie et se faisait comme un tison d'enfer tandis que s'emparait de lui une idée soufflée par le diable. En sursaut, la petite s'éveilla. Elle regardait sa main qu'elle sentait meurtrie. Une pierre roula de sa robe. Qui venait de la lui lancer? Personne alentour. Elle reconnut, arrivant de la clairière, la voix de son père, les bruits du travail. Elle était tout à fait éveillée. Alors elle vit dans cette belle mousse sombre, tout en étoiles, de cette belle mousse épaisse qu'on cherche pour en faire des couronnes à la Toussaint, deux marques, comme des pas dans un pré. Les marques des semelles d'un homme restées là, debout, longtemps. Deux brins d'herbe se décollaient, se relevaient. En même temps, elle pensa au couteau de chasse, avec cette idée qu'elle allait serrer dans le cabas lorsqu'elle s'était endormie, et ce couteau, qui devait se trouver près d'elle, n'y était plus. Le cœur lui battait avec une violence douloureuse. C'était comme des éclairs qui passaient devant ses yeux. Il ne lui vint même pas à l'esprit que son père pouvait avoir emporté le couteau. Elle savait tout. L'homme était là, derrière quelques buissons. Il avait pris le couteau, puis il lui avait jeté cette pierre sur la main. Sans doute, il la regardait. À travers des sureaux, il lui sembla entrevoir une forme, mais les feuilles partout arrêtaient la vue et soudainement, d'un nuage montant, tomba une autre.
Alors ces rappels de la malédiction de Shenroy sont, dans l'histoire tragique d'Anne-Marie, des signes récurrents, annonciateurs du destin qui l'attend, des présages dramatiques. Le retour de l'homme noir, qu'il soit réel ou fantasmé, donne lieu à une grande richesse de variations qui rythme la longue marche de l'histoire. Le père d'Anne-Marie Grange, dans son désir d'ascension sociale, lui fait épouser un monsieur, Robert, qui n'est autre que l'homme noir de Shenroy. Comme le diable, il a le génie de la dissimulation. Mais trois jours après le mariage, dans une scène violente, en pleine forêt, il arrache le gant qui cachait sa main mutilée, révélant soudain son identité à sa femme, qu'il laisse à demi égorgée, ligotée à un arbre, elle disparaît. De Robert le Diable, Anne-Marie aura un petit garçon, Henri, qui sera enlevé par les hommes du brigand. Gaspard va battre la campagne pour retrouver l'enfant volé. Ces nouveaux rebondissements de l'intrigue permettent au romancier de rattacher au long fil de son récit l'histoire du petit Henri. L'histoire d'Henri se retrouve dans l'imagerie de l'Occident, sous le titre « Histoire du jeune Henri ». Le récit en quatre épisodes est devenu alors une planche en 20 images. Dans Gaspard des Montagnes, le ravisseur n'est autre que le père de Henri. Les quatre épisodes du récit sont disjoints, séparés par des temps d'attente, comme dans un feuilleton. L'histoire, momentanément enfouie, puis qui refait surface, comme un cours d'eau qui s'enfonce sous la terre et réapparaît plus loin. Cette histoire, à partie liée avec le monde souterrain, les menées obscures de Robert, les aléas de l'enquête de Gaspard. Ce récit apprend d'abord que l'enfant volé a été transporté dans une cage souterraine, dans le lieu le plus solitaire, les forêts de l'Orange. L'enfant, pris en pitié par l'un de ses gardes, peut s'évader.
Les premiers temps, l'enfant est une chèvre en guise de nourrice. La vieille qui l'avait volée dans la chambre haute des Escures se relâcha bien vite de tous ses soins. Elle était devenue aux trois quarts imbécile. Il lui arrivait de porter le boire et le manger pour 2 jours. Elle se souciait de ce petit à peu près autant que des souris qui nichaient sous les pailles. Quand la chaleur s'éteignait, c'était noir. Un noir de poids. L'enfant jouait à faire des boulettes de boue ou à conduire par des rigoles l'eau qui découlait d'une fente. D'aventure, il voyait des hommes qui venaient, restait un peu de temps, repartait et restait longtemps sans revenir. S'il y avait des souleries, des batailles, il se renvoyait dans une petite galerie où il se mettait à pleurer, puis tirait une pointe de langue pour goûter ses larmes, et l'épuisement finissait par tomber dans le sommeil. Une branchette d'églantier, qui était restée par hasard agrafée à la jupe de la vieille, un soir lui dit beaucoup de choses. Comme en un songe, il se souvint des brassées d'herbe qu'on apportait à la chèvre du rosier, près de la porte des Escures, dans un grand parfum de campagne. Les rêves et la vie, ce qu'il voyait, ce qu'il imaginait de sa tête, c'était tout un pour lui. Il vivait dans une sorte de vision. Il dut demander à la vieille de l'emmener là où on trouvait ce qui sentait si bon. Déjà, il avait essayé de prendre le couloir. Dans une des galeries en cul-de-sac, un filet de jour glissant dans un éboulis faisait reflet à la paroi de sable. Une fougère presque blanche avait poussé là-haut. Souvent, il venait la regarder. Il fit la même demande à un homme en lui montrant la branchette. Celui-là, entre les autres, lui apportait des poignées de noix, des châtaignes. « C'est vrai, dit l'homme, ce petit n'a jamais vu les arbres. La campagne, le soleil, il n'a aucune idée de rien, de rien. » Le garder dans une cave avec l'araignée, le crapaud et cette vieille qui est la troisième bête, c'est un trop grand malheur. L'enfant d'une dame aurait tout chez lui. Regarde-le avec cette veste rousse qui lui bat les jarrets. Tu risques un mauvais coup en trahison, mais il faut tirer cet enfant-là.
Alors, donc cet enfant va s'évader et après son évasion, le sort de l'enfant ne sera révélé que plus tard à Gaspard, parce qu'il a toujours une oreille aux portes pour les bavardages des portes, ceux des colporteurs, des musiciens, des mendiants, qui venaient à la belle bergère, qui auraient troqué leur couteau contre du pain froid. Pour survivre, l'enfant trouvera un étrange associé, l'avare des grands bois.
Un soir, un bergerot qui gardait ses bêtes sous un grand bois avait vu paraître un enfant plus blanc qu'un brouillard avec des yeux drôles qui abritaient de son bras comme s'il ne pouvait supporter le chaud. Cet enfant avait dit des choses singulières. Il avait parlé de la grande lampe, c'est sans doute le soleil, qui paraissait l'inquiéter. Le bergerot, un peu saisi, lui avait demandé d'où il venait. Cet enfant, en montrant la terre, avait fait comprendre qu'il était sorti de là-dessous. Le voyant si pâle, avec ses yeux luisants, son odeur de cave, l'autre le prit pour un fadou, fils de fade. Les fades, les fées, vivent cachés sous les roches, dans les lieux solitaires. Dès qu'on a cessé de sonner l'Angélus, durant la Grande Révolution, elles ont reparu et plusieurs les ont bien vues, alors au pot de Piolière ou en divers endroits. Le berger soudain tourna les talons et s'enfuit au beau galop. Cependant, devant les herbes des champs et les oiseaux de l'air, le petit Henri perdait la tête. Le plein vent l'étourdissait, le soleil l'éblouissait. Les moutons lui avaient confusément rappelé sa chèvre. C'était d'eux plus que du berger qu'il s'était rapproché. Mais lorsque ce berger se sauva, il eut plus peur lui aussi. Il pensa que les hommes allaient l'enfermer de nouveau sous terre et il gagna les bois, cherchant le couvert et l'ombre. Un peu de bise soufflait. Ils transirent, n'ayant jamais senti le froid. Ils se trouvaient mieux depuis que la grande lampe avait disparu. Il usait si mal aux yeux comme une brûlure. Il allait, mais déjà ne pouvait plus soulever ses pieds gonflés. La nuit était tombée. Il lui sembla qu'il retrouvait sa caverne. Il se mit à pleurer de fatigue et de désespoir. Il s'assit à terre au milieu du sentier, ne sachant pas que, même pas ce que c'était qu'un sentier. Et aussitôt assis, il roula dans le sommeil. Il rêvait que des arbres le poursuivaient, des arbres qui étaient des hommes. Un d'eux l'attrapait, lui trouait le cou, c'était la fin. Il s'éveilla portant la main à son cou où quelqu'un appuyait le bout d'un bâton, ouvrit les yeux, les referma vite, les rouvrit à demi gêné par le jour. L'homme le poussait du pied. C'était un grand vieux, décharné, couleur de rave, avec le tour des yeux rouges. Un tremblement le secouait sans arrêt comme un jour dans un courant d'eau. Il demeura un moment à examiner cet enfant étrangement fait, étrangement vêtu. Le petit, une main sur les yeux pour se garder de la lumière, ne comprit rien à ses questions. Son nom, son village. L'homme le considérait avec méfiance. Mais se disait que cet enfant, parce qu'il mêlait à son parler des mots qui n'étaient pas des vers, il devait sortir de bien loin. C'est pas gros, mais ça prendra sa vie d'un coton. Il gardera les chèvres, je pourrai aller en tourner dans les bourgs. Le gravier des Griffous faisait sa demeure au plus épais des bois. Des houes en eau noire cachaient sa cabane. Une cabane de pierre qui s'en allait d'un côté, taillée sur une jambe de sapin comme sur une béquille. Le toit de chaume, bosselé, verni de vieillesse, était rapiécé de genêts maintenus par des bâtons en verrou. Au-dedans, des bouquets d'épis garnis de toiles d'aragne passaient entre les planches. Le grabier vivait là, avec deux chèvres parquées derrière, une mauvaise cloison à hauteur de puits. Mais la cabane était remplie d'un ramas de choses sans nom cueillies derrière les fermes. Peaux égueulées, couroirs à cornis, cabas effondrées, loques durcies debout, fers à cheval mangés de rouille, tout ça en montagne, bouchant presque les quatre carreaux de papier vide. C'était un rêve bien sauvage, cette masure et ce mendiant tremblotant. Mais le sombre même du lieu allait bien aux yeux de l'enfant que le jour blessait encore. Et le feu, le tas de pommes de pin, les deux chèvres, qui se croyaient dans le château d'un roi. Le gravier lui apprit à garder les chèvres et à rapporter du bois mort. Il lui apprit aussi, pour épargner le pain et comme font les petits bergers, à déterrer les châtaignes de terre, qui sont grosses comme le bout du doigt et qui ont un goût entre celui de la pomme de terre et celui de la noisette. Le gravier le tenait pour un simple, parce qu'il le voyait revenir du bois avec aux mains des fleurs blanches et des fleurs rouges. Il avait remarqué que ce petit se cachait des créatures et préférait n'aller dehors qu'à la brume. Alors il le prit comme il était, sans trop le charger de mauvaises paroles. Cela fit une sorte d'association. Le petit se terrant dans la masure ou au fond des bois et le grabier courant les villages.
Alors, que la narration en passant des notables soit confiée à une conteuse prolixe, cela laisse la liberté de recorder à l'intrigue une foule d'histoires au gré des associations d'idées, de mots parfois. Ainsi, le mot moi amène aussitôt aux lèvres de la conteuse une histoire facétieuse, l'histoire du curé trop friand qui fut guéri de sa paralysie par les voleurs de moutons. Cette histoire, ce soir-là, le signon qui venait d'envoyer son fils voler un mouton s'était posté sur le mur du cimetière. Autrefois, il écrit, on plantait dans les cimetières quelques noyers dont l'huile servait aux luminaires de l'église. Sous ce couchage, le signon, enfourché sur le mur ainsi qu'un meunier sur son âne, commence à déplucher ses noix de cimetière. Et, brimballant les jambes, donnant de ses sabots contre les pierres, il prenait plaisir à faire craquer. Ce bruit épouvante le sacristain, qui croit entendre les diables croquer les os des morts, il charge sur son dos. Le curé, devenu impotent par excès de gourmandise, d'abord incrédule, puis convaincu que tous les diables étaient là, qui fracassaient les os des défunts dans leur mandibule. Au paroxysme de la terreur, le sacristain s'enfuit à toute allure, aussitôt suivi du curé, qui retrouve miraculeusement sa vélocité par un effet que les médecins expliqueront sans le un univers où la diversité n'est pas ressentie comme disparate, donne à entendre ces contes facétieux avec leur verdeur d'expression, aussi bien que des contes religieux, telle l'histoire de Saint-Barthélemy, qui délivra un enfant vendu au diable et se tira lui-même des griffes du malin. Les histoires de lutins, qui embrouillent la nuit les crinières des chevaux. Des légendes, comme celle de Pierre Couvert, celle de l'ogresse, du château de Roche-Savine. Dans Gaspard des Montagnes, tous ces récits, qui affleurent d'un gisement immémorial, sont emportés dans le flux d'une même voix, dans le souffle d'une langue, où les formes vivantes de l'oralité sont inséparables de la poésie. Si le roman est prenant, c'est beaucoup grâce à cette langue originale, comme l'a bien vu Flaubert, qui disait à Froid, vous êtes de ceux qui vous êtes aperçus que sous notre langue écrite, pareille à une écorce banale et morte, subsistait obstinément une langue parlée avec son vocabulaire et sa syntaxe, à la fois traditionnelle et mouvante, infiniment plus propice que l'autre à la traduction de la nature et de la poésie. Alors, on va dire quelques mots du Trésor des Contes, le Trésor des Contes. Donc, réédité récemment par Omnibus, en 2 tomes, les 13 livres du Trésor des Contes, publiés de 1948 à 1962, rassemblent près de 1000 contes. Merveilleux, facétieux, contes de brigands, de fées, de sorciers. Si divers que soient ces contes, chaque livre a pourtant son unité d'inspiration. Ainsi, le livre 4, par exemple, nous emmène, comme l'écrit Cora, chez les sauvages de la montagne, ceux qui vivent aux confins d'une vie un peu étrange, ceux qui ont des affaires avec les fées. Le pays des fées est, comme on le précise dans la fée aux 3 gages, est en terre déserte. Là, on y a ni coq qui chante, ni robinette qui belle, ni femme qui enfante, ni homme qui aide à perdre une goutte de sang. Dans la chemise de la fée, la mère du jeune berger amoureux lui conseille de se méfier d'elle. Elles sont créatures, mais non pas filles comme les filles. On sait bien que, comme celle de Mélusine dont le conte clôt le livre 4, la présence de la fée chez les hommes ne saurait être durable. Même les liens les plus forts avec un mortel sont à la merci d'une transgression souvent involontaire. On le voit dans Le Seigneur et la fée. En épousant la fée, le Seigneur s'est engagé à ne jamais prononcer le mot mort, sous peine de la perte, ignorant que ce mot ne peut rester longtemps banni du vocabulaire. Le conte est réalité mouvante. Il passe à travers les frontières, y compris celles qui peuvent s'interposer entre la tradition orale et la littérature. Cora le dit avec une image. Un conte, c'est une boule sans marque, comme un œuf d'oiseau, comme une graine de fleur du pré. S'il est bon, il doit pouvoir rouler et venir n'importe où. Rien d'étonnant alors si on retrouve dans le trésor des contes qu'on peut lire dans une autre version sous la plume des frères Grimm, les 7 corbeaux et les 3 cheveux d'or du diable. Les souliers usés à la danse des frères Grimm devient dans le trésor le conte de la fille du roi aux souliers gâtés. Le conte des 7 corbeaux est le premier du trésor. C'est l'histoire d'une petite fille. Une vraie souris écorchée dans la version du trésor, tellement chétive à sa naissance qu'il faut la baptiser de toute urgence. Ses frères qui vont chercher l'eau du baptême tardent à revenir et le père furieux lance une malédiction, qu'il soit changé en corbeau. La malédiction s'accomplit aussitôt, et les sept corbeaux disparaissent. Au bout de quelques années, quand la petite fille apprend la vérité, elle se met en route, munie d'un tabouret et d'un anneau, pour les délivrer. Elle marchera jusqu'à la montagne de verre, dont elle réussira à ouvrir les portes, et elle parviendra à lever la malédiction. Dans ce conte, la juxtaposition du motif du baptême chrétien et de l'accomplissement de la malédiction témoigne d'un certain syncrétisme. Le sacré chrétien et la magie du verbe humain sont mis sur le même plan. Les frères Grimm renvoient au conte des sept colombes chez Basile, ainsi qu'à un chant en vieux danois, dont le héros, aussi changé en coucou, maudit par sa marâtre, retrouve sa forme humaine grâce à sa sœur qui a sacrifié son enfant pour lui. Le motif de la nécessité d'un baptême immédiat, comme le soulignait Bernadette Foucault, prend toute sa signification si on le replace dans le contexte des sociétés traditionnelles. L'enfant mort sans baptême, l'enfant des limbes, est dévoué à une errance éternelle. Il devient, écrit-elle, oiseau, feu follet, étoile filante, papillon blanc, c'est-à-dire qu'il revêt toutes les formes incertaines de celui qui n'a point d'ancrage et ses souffrances sont la vie. Quelles raisons ont amené toi à ouvrir le trésor des contes avec les sept contes? Ce qui singularise sa version, c'est que l'image de la fontaine y revient à quatre reprises et ponctue le récit du début à la fin. C'est à la fontaine que la petite fille apprend la vérité. À l'issue de l'histoire, la fontaine est le terme du périple. Quelle signification symbolique là. Cette fontaine, qui éveille aussi l'écho de la claire fontaine des anciennes chansons, est peut-être aussi un gage d'appartenance au vieux, vieux temps, à l'immémorial des contes, des légendes, des chansons. En tout cas, au seuil du trésor, le lecteur, lui, emporte l'image de cette petite fille, traversant l'immensité cosmique avec un tabouret et un anneau pour lever la malédiction qui enferme tous ses frères dans les corps noirs des corps. Le livre 6 du trésor des contes nous fait entrer dans un univers secret, celui des pratiques de sorcellerie, des jeteurs de sorts, de la femme au mauvais œil, du meunier damné, de la tireuse de lait, des loups-garous. Les ensorcellements n'y sont pas toujours irréversibles. Le valet parti, pour avoir trop fréquenté les mauvais livres, revient le jour de Pâques, grâce à l'enfant qui lit le début de l'évangile de saint Jean. Mais tel n'est pas le cas de l'homme loup dans la confidence au carreau. D'abord raconté à Poura par Madame Bulle de la Voissière de Sainte-Catherine le 27 septembre 1951 avant de figurer dans le trésor des contes. Le carreau, c'est le coussin à tambour de la dente blanche. Alors, c'est l'histoire d'une dente blanche. Un soir, qu'elle rentre tard chez elle, elle a au milieu des bois un feu autour duquel dansent des hommes habillés à lui. Elle en reconnaît un qui lui fait promettre de ne dire ce qu'elle a vu qu'à son carreau. L'homme croit que le secret de la rencontre sera bien gardé. Au cours d'une journée, la femme raconte tout à son carreau, mais à voix très haute, si bien que toute l'assemblée est au courant de ce qui n'aurait jamais dû être révélé. Une fois brisé le silence qui aurait permis à l'homme loup de redevenir un homme, celui-ci est condamné à être loup pour toujours. La confidence au carreau est entre deux mondes, le monde ritualisé de dentitaire, le monde nocturne, les hommes avec ses lois occultes et ses intérêts. Le carreau, qui devait être le garant d'un secret, devient l'alibi d'une indiscrétion. La femme trouve le moyen de respecter et de trahir à la fois sa promesse. Doit-on se réjouir du bon tour joué par la dentelière à l'homme loup qui l'avait menacé de se venger si elle parlait? On ne peut s'empêcher de penser, si elle avait su tenir sa langue, l'homme aurait été délivré de son sort de loup-garou. De la confidence au carreau, aussi d'abord la version recueillie par vous.
Ma grand-mère rapportait la dentelle qu'elle avait fabriquée bien loin d'être à Arlan. Elle demeurait dans les bois, au-dessus de Saint-Germain-l'Herme, à la Faucille, dans les bois du Fayet. Au milieu des bois, elle a vu des feux et des loups qui dansaient, des hommes habillés en loups. Il y en a un qu'elle connaissait. Il est venu à elle. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je ne rapporte pas dentelle. »« Eh bien, si tu as le malheur de dire que tu m'as vu, malheur à toi. Ah, »« Je le dirai alors qu'à mon carreau. »« On sait bien comment sont les femmes et qu'il faut qu'elles parlent. » Dis-le à ton carreau, mais si tu le disais à d'autres, là, tu verrais ce qui t'arriverait. Le lendemain soir, à la veillée, toutes les femmes étaient là, avec leurs carreaux faisant la dentelle. Elles, tout d'un coup, elles se mettent à dire très haut. Carreau, carreau, hier au milieu des bois, j'ai vu un feu et des hommes habillés en loups qui dansaient autour, il y avait un tel de tel village. Voilà, toutes les femmes, les moi, qui lèvent le nez, s'arrêtent de travailler, la questionnent, mais elles, sans leur répondre, elle se contente de redire « Carreau, carreau, hier au milieu des bois, j'ai vu un feu et des hommes habillés en loup qui dansaient autour, il y avait un tel de tel village. Carreau, carreau, hier au milieu des bois, j'ai vu un feu et des hommes, etc. » Et le jour qui suit, comme ma grand-mère faisait son carreau devant sa porte, elle voit arriver l'homme, furieux. « Qu'as-tu fait? Qu'as-tu dit ?»« Bon, j'ai fait ce que j'avais pas envie de faire. À mon carreau, j'ai dit. » »« Mais tu l'as dit devant toutes ces femmes? Tu vas voir comme il va t'en prendre. » Est-ce qu'il était dit que pour dire à mon carreau, il faudrait qu'il n'y ait personne? Il n'y a pas de question de ça. Bon, mais vous ne me pouvez rien. J'avais dit que je dirais mon carreau. Je dis mon carreau. Et ben voilà. C'est vrai, je ne te peux rien. Mais moi, j'avais une mission. Dans 6 mois, elle était finie. Et maintenant qu'on sait, me voilà lui pour toujours. Il est parti. On n'est plus jamais.
Alors, maintenant aussi, la version du trésor de Côte.
Il y avait une fois une fille, autant le dire tout de suite, c'était ma grand-mère. Elle demeurait dans son petit pays de Fessille, au milieu du bois du Fayet. À la maison, elle faisait l'ouvrage comme les filles font, et dehors, elle gardait les bêtes. Ici ou là, sitôt qu'elle pouvait s'asseoir, qu'elle avait pendu la marmite à la crémaillère et fourgonné le feu, ou mis ses vaches au pacage sous le grand bois, elle prenait sur ses genoux son carreau de dentellière, et la voilà à sa dentelle, faisant dérouter les fuseaux. Cette dentelle, quand elle l'avait fabriquée, il fallait la porter au marchand, celui qui donnait l'ouvrage. C'était loin, je ne me rappelle plus, oh, peut-être à Arlan. Assez loin. Une fois, elle s'attarda. Personne n'est bien jaloux d'être tard par les chemins, mais elle, elle ne voulait rien craindre, la grand-mère. Pour finir, elle s'est vue de nuit au bord du bois, de ses sagnes pleines de joncs, de saules noirs et de bourbes, vous savez bien, les rosettes de fougères, les pierres, l'eau qui court, les banquettes de mousse, un désordre de sureaux, de bouleaux, de jeunes plants, toutes ces rames montant, descendant, des sapins, et encore des sapins. C'est écarté, et c'est sauvage, c'est sombre, c'est bourreux. Là, du milieu de tout ça, elle a vu quelque chose entre les arbres, quelque chose, un feu qui s'abrandait et des loups qui dansaient autour. Il y en a un qui est venu à elle. Celui-là, elle le connaissait. Dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Je rapporte ma dentelle. Prends-toi garde. Si tu t'avises de dire que tu m'as vu, faut qu'on parle pourtant, va t'empêcher de parler. Petite, si tu parles, donne pas cher de ta vie. Bon, enfin, enfin, comment veux-tu qu'à un moment ou à un autre... Bon, alors tu écoutes. Dis-le à ton carreau, c'est vrai, on sait comment sont les femmes et qu'elles ont besoin de parler quand elles savent quelque chose, faut qu'elles le sortent. Mais toi, à ton carreau, c'est ça, tu peux le dire à ton carreau. Cette permission-là, je te la donne, petite. Que ça te suffise. Le lendemain, à la fessille, on faisait la veillée. Les femmes étaient là, dans la paille de l'étable, chacune à son carreau, dans tout ce train des fuseaux roulant, passant, s'entrecroisant, dans tout un train de propos aussi menés, poussés, relancés, et s'ils s'en dévidaient, et s'ils s'en dévitaient, les nouvelles, les vraies, les moins vraies, tout ce qu'on savait des gens, qu'on croyait savoir, quand on s'y met, Dieu sait, rien ne tient plus les langues, ça va comme aux cartes, les hommes partis dans le jeu, quand l'une n'attend plus l'autre pour tomber sur la table, une fièvre, une rage. La grand-mère, là-dedans, criait d'impatience. Tout à coup, profitant d'une petite pause qui s'était faite, baisse sa tête vers son carreau comme elle aurait fait vers quel pont qui se serait trouvé sur ses genoux. Et très haut, mais ne regardant que sa dentelle, ne s'adressant qu'à elle, elle se met à dire « Carreau, carreau, hier au soir dans les bois d'en haut, j'ai vu un feu et des hommes habillés en loup qui dansaient alentour. Il y en a un au moins que j'ai reconnu, un qui n'était pas bien loin. À toi, carreau, je peux le dire, à toi, carreau, je te le dis. C'était un de près d'ici, c'était l'Ambroise du Fayet. » Une bombe serait tombée. Voilà ces femmes arrêtées, pétrifiées, les voilà toutes le nez levé, le doigt posé sur les fuseaux, toutes là en combustion, questionnant, requestionnant, elles apostrophent la grand-mère. Mais elle, sans leur répondre, ne s'adressant qu'à son carreau, 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 hier au soir dans les bois d'en haut, j'ai vu un feu, des hommes habillés en loup qui dansaient alentour, il y en a un au moins que j'ai reconnu, qui n'était pas bien loin, un trois carreaux, je peux le dire, c'était un de près d'ici, c'était l'Amboise, en bois du Fayet, carreau, 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 hier au soir dans les bois d'en haut, j'ai vu un feu, et des hommes habillés en loup qui dansaient alentour, etc. Le jour suivant, au bord de la nuit, la grand-mère était derrière la fenêtre. La nette se remettre à son carreau. Brusquement, la porte s'ouvre. Entre l'Ambroise, mais comme un loup qui va jeter sur le mouton. Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu dit? J'ai fait ce que j'avais congé de faire. À mon carreau, j'ai dit ce que j'avais congé de dire. Malheureuse, tu l'as dit devant toutes ces femmes. Ah, est-ce qu'il était marqué que pour parler à mon carreau, je devais attendre qu'il n'y ait personne? Oh, toi maintenant, mais vous ne me pouvez rien. À ce que vous m'aviez marqué vous-même, je me suis tenue. Et c'était ce que je pouvais dire à mon carreau. J'ai dit à mon carreau, rien de plus, rien de moins. C'est vrai. C'est vrai, moi je ne te peux rien. Mais moi, j'avais fait un marché. Un marché dans le secret qui me tenait pour un temps. J'ai l'air de devenir dans 3 semaines un homme, comme tous les autres. Ma présence est finie. Tout le pays me sait loup, je suis loup pour toujours. Il a tourné les talons, il a dévalé. La nuit vient tôt dans ces soirs de novembre. Il n'était pas au bout du pré que dans cette ombre, il était déjà loup. La grand-mère et tous ceux du pays ne l'ont plus jamais vu.
Ou nous l'ont vu donc.
Voilà, alors, peut-être que vous avez entendu que d'une version à l'autre, il y a des choses qu'on retrouve inchangées. Par exemple, des formules frappantes sur lesquelles repose la tension dramatique de l'histoire. D'une version à l'autre, il y a toujours l'injonction, dis-le à ton carreau, il y a toujours cette confidence qui est faite sur le ton d'une proclamation, elle se met à dire très haut, il y a toujours la double adresse, carreau, carreau, qui est répétée 2 fois, la question de l'homme trahi, qu'as-tu fait, qu'as-tu dit, le chef d'accusation devant toutes ces femmes, la protestation d'innocence qui reprend littéralement les termes du contrat, j'ai dit à mon carreau, vous ne pouvez rien. Et puis le sort définitif de l'homme, je suis loup pour toujours. Ça revient, parce qu'il y a une efficacité dramatique des formules qui revient. Donc la deuxième version, donc la version du trésor, l'homme loup a un prénom, l'Ambroise du Fayet. Et sa mise à l'épreuve passe de 6 mois dans la première version à 3 semaines, donc la deuxième version. La version du trésor des contes ménage des progressions. Là où la version orale est plus immédiate, par exemple la vision nocturne dans la première version. Au milieu des bois, il a vu des feux et des loups qui dansaient, des hommes habillés en loups devient. Dans la version du trésor, là, du milieu de tout cela, elle a vu quelque chose. Un feu qui s'approche et des loups qui dansaient autour. Le feu et les loups ne sont pas tout de suite identifiés. Avec la répétition de quelque chose, il y a place pour la perplexité et l'interrogation. Qu'est-ce que c'est? Et il y a aussi ce verbe qui fait image, sa brande. Il y a la brande de tison et le brandon. Et puis aussi la brande qui sont ces parterres végétales, plus jeunes, de jeunes, d'âges, vite inflammables. Et alors, à la fin de l'histoire, dans la première version, le sort de l'homme loup est dit en une phrase. Il est parti, on l'a pleuré. Dans la version du trésor, il faut deux alinéas. Un premier pour la fuite de l'homme loup, après son dernier échange de paroles avec la dante d'hier, et il a tourné les talons et les talons. Puis, un deuxième, et c'est le tout dernier paragraphe d'elle, et la progression ménagée est sensible, la tombée rapide de la nuit de novembre, l'ombre qui absorbe lui, l'homme à jamais invisible à ses semblables. Si mystérieuse que soit cette issue de l'histoire, on peut en suivre les étapes successives. Là, les émotions qui traversent la voix de la conteuse lors d'une transmission orale, il faut les faire passer à l'écrit. La version du trésor déploie l'inquiétante étrangeté de l'espace nocturne où la dentelière se retrouve seule. Elle nomme les sensations. C'est écarté et c'est sauvage, c'est sombre, c'est terrible. L'écrivain conteur fait appel aux images pour rendre son récit plus parlant. La frénésie de bavardage est toute pareille à l'ivresse du jeu de cartes chez les hommes. La femme se penche sur son carreau comme elle aurait fait vers quelques poupons qui se seraient trouvés sur ses genoux. L'ambroise trahie fait face à la grand-mère comme un loup qui va se jeter sur le mouton. La version du trésor consacre tout un paragraphe à la volubilité des dentelières, l'allègre transgression des limites entre le vrai et le faux, l'avéré et l'incertain, ce qui se dessine alors de plus en plus nettement dans le tissu de mots, c'est l'image du feu. La grand-mère là-dedans grillait l'inconscience, tout là en combustion. Au feu autour duquel dansent les loups, répond dans la veillée des dentelières le feu d'une parole impossible à contenir. Mais du feu visible qui rassemble les loups-garous, ou du feu invisible qui brûle la langue des femmes, lequel est le plus redoutable. Cette rapide confrontation entre deux versions de la confidence au carreau montre que la fidélité, au sens où l'entend pourra, exige de l'écrivain un travail inlassable pour restituer la vie d'une transmission orale, son contexte, ainsi qu'il le précise. Si tu ne refais pas du conte une nature, tu n'es pas un transcripteur fidèle. Il faut que la mimique, les suspens, les changements de ton soient là, en dessous, de par une certaine figure du langage, de par le rythme, que le monde des chants et la vie des chants y soient aussi, sous l'écorce des choses, comme une butte d'expression et d'image. Il faut que la forme, qu'une certaine saveur intérieure, prête à la chose écrite le vivant goût de la campagne et de la chose parlée. Voilà, c'est là la tropédie, ce qu'on peut essayer de dire en conclusion. Evelyne, parce que je pense que la lecture des contes, c'est une façon de donner vraiment de la vie.
Les films, c'est des instantanés, si vous voulez. C'est son premier livre qu'il a écrit en collaboration avec un de ses amis. Et c'est la vie d'un village. C'est très réaliste déjà. Alors, on voit cette évolution de l'œuvre de mon père. Depuis ces petits films, ce qu'il appelle des films, très réalistes, très jusqu'au trésor des contes, qui est au contraire quelque chose de très éthéré, je dirais. Mais vous avez raison d'insister sur la langue, je crois, parce que ces contes qu'il a réunis tout au long de sa vie, vraiment l'œuvre de sa vie, il a commencé par en publier tels qu'il les avait recueillis. Et il s'est aperçu que c'était quelque chose de mort, de sec. Et donc c'est tout à fait à la fin de sa vie qu'il s'est senti maître de l'outil qu'il s'était créé, c'est-à-dire sa langue, une langue très particulière. Je crois que c'est du français, vraiment. Je ne crois pas que s'il emploie de temps en temps un mot de Languedoc ou de dialecte, il l'explique aussitôt.
qu'on n'aurait pas tendance à le voir comme un écrivain régionaliste?
Si.
Oui, c'est...
Bien sûr. Et je crois que...
C'est rétrécissant.
Et c'est vrai que l'Auvergne est au cœur de son œuvre, mais plus que l'Auvergne, je dirais que c'est la campagne, que c'est le monde des champs, comme on dit, enfin, et le monde des saints.
Ce qu'il a entendu là, il l'a entendu en patois, évidemment.
Pas toujours.
Mais
il connaissait le patois. Je n'ai jamais entendu parler de patois.
Ah non.
Jamais. Mais il avait un ami qui était libre en vert, un ancien qui s'appelait Michelia. Et c'est avec lui qu'il a commencé à faire sa collecte de contes. Et c'est à la mort de Michelia qu'il a vraiment voulu comprendre, ne pas avoir. Oui, ne pas passer à côté de quelque chose dont il racontait pas quoi. Mais je ne l'ai jamais entendu parler. C'était Paul Vernois qui écrivait une thèse sur le roman rustique de Georges Sand à nos jours. Et donc il avait consacré un chapitre important à mon père. Et il travaillait dans le bureau de mon père, qui était mort depuis quelques années. On lui avait ouvert tout ce dont il avait besoin, donc il est, le centre écrivain n'était pas encore institué. Et donc il avait travaillé toute la matinée là, dans ce bureau, en solitaire. Et il descend à l'heure du déjeuner.
Mais alors, avant 14, là, bon, là c'est clair, mais les gens ne parlaient pas français. Il les entendait en langue d'or. Et il les notait comment?
Il les notait en français. Parce qu'il ne notait rien en écoutant le...
Voilà, il écoutait, et c'est quand il rentrait... Alors, et au départ, il avait un traducteur, il traduisait ce qu'il entendait. Après,
oui,
comme vous
ça.
Dites, il a su comprendre suffisamment pour comprendre ce qu'on lui disait. Il ne notait rien, et le soir, quand il rentrait, il notait un canevas.
Ou s'il notait, il notait un mot, mais c'est tout.
Un canevas. Oui. C'est un peu ce qu'ils ont fait, hein, de toute façon. Oui.
Et au besoin, il l'avait retrouvé quand il avait une hésitation sur...
Mais alors, il le réécrivait quand, vraiment, de façon construite?
De façon construite, je crois qu'il le notait le soir et qu'il réécrivait le lendemain.
Voilà, c'est ça. Quand ta mémoire était encore... Oui. Et c'est là que voilà. S'il lui manquait des trucs, il allait revoir le contact. Donc déjà, avant 14, il y avait un corpus de construit.
Ah oui, certainement.
Il notait aussi qui avait raconté l'âge du
lieu. Oui, il a été formé à cette méthode.